8. En même temps, il se dit « Tout va bien, ce n'est rien qu'un réverbère qui a grillé. S'il y avait des vampires, tu les verrais, s'il y avait des ignobles, tu entendrais le carillon et tu sentirais l'odeur d'oignon et de métal bouillant. » Pourtant, il décide quand même de changer de décor et sur le champ. Carillon ou pas carillon, chaque nerf de son corps lui paraît soudain à fleur de peau, à grésiller et à lancer des étincelles. Il se retourne et se retrouve nez à nez avec deux hommes. L'espace de quelques secondes, ils sont tellement surpris par son changement subit de direction qu'ils pourraient sans doute filer entre eux comme un joueur de football américain sur leur tour et piquer droit sur la deuxième avenue. Mais lui aussi est surpris. Et pendant un moment, ils restent là, tous les trois, debout, à se dévisager. Il y a un grand frère Hitler et un petit frère Hitler. Le petit ne mesure pas plus d'1m60. Il porte une chemise en jean large sur un pantalon noir et sur la tête une casquette de baseball à l'envers. Il a les yeux aussi noirs que le goudron et une mauvaise peau. Pour Callahan, il devient immédiatement Lenny. Le grand mesure un bon 1m90. Il porte un sweatshirt de l'équipe des Yankees, un jean et des baskets. Il a une moustache blond roux. Il porte un sac banane autour de la taille. Callahan appelle celui-là George. Callahan se retourne avec l'intention de piquer un sprint vers la deuxième avenue s'il a une chance de battre la circulation. Si c'est impossible, il descendra la 46e jusqu'au Plaza Hotel et se réfugiera dans le hall. Le grand, George, l'attrape par la chemise et le tire vers l'arrière par le col. Son col se déchire, mais malheureusement pas assez pour le libérer. « Oh non, Doc !» lui lance le petit. « Pas question !» Puis il se précipite vers l'avant aussi rapide qu'un insecte, et avant que Callahan ait compris ce qui lui arrive, Lenny lui a attrapé les testicules à pleine main et les lui écrase violemment. La douleur est immédiate et insupportable, une nausée gigantesque qui remonte comme du plomb liquide. « Ça te plaît, Nicole de Nègre ?» lui demande Lenny sur un ton visiblement plein de sollicitude, un ton qui veut dire « On veut que, pour toi aussi, ce soit un jour inoubliable. » Puis il lui tire les testicules vers l'avant et la douleur est multipliée par 3. Une énorme mâchoire rouillée se referme sur son estomac et il se dit « Il va me les arracher. Il les a déjà réduites en bouillie et maintenant il va me les arracher. Elles ne tiennent plus que par un petit morceau de peau. » Et il se met à hurler et George lui colle sa main sur la bouche. « Arrête ça ! Arrête ça !» grogne-t-il à son camarade. « On est dans la rue, putain, t'as oublié ou quoi ?» Alors même que la douleur le cloue sur place, Callahan engrange toute une série d'informations, c'est bizarrement le bon côté de la situation. George, c'est lui qui commande. George est le grand frère Hitler. Ce n'est certainement pas comme ça que Steinbeck l'aurait écrit. Puis à sa droite, il entend monter comme un bourdonnement. Il croit d'abord qu'il s'agit du carillon, mais c'est un bourdonnement doux, mais fort en même temps. George et Lenny le sentent eux aussi. Et ça ne leur plaît pas. « C'est quoi ça ?» demande Lenny. « T'as entendu quelque chose ?»« J'en sais rien, on va le ramener là-bas. Et touche plus à ses couilles. Tu les bousilleras autant que tu voudras plus tard, mais pour l'instant, contente-toi de m'aider. » Ils se placent chacun à côté et ils se retrouvent propulsés dans la deuxième avenue. La haute palissade défile à leur droite, et ce bourdonnement doux et puissant vient de derrière la palissade. « Si seulement je pouvais passer par-dessus cette barrière, tout irait bien, » se dit Callahan. « Il y a quelque chose là, quelque chose de puissant et de bon. Il n'oserait pas s'en approcher. » Il a beau en être persuadé, il doute de pouvoir se hisser au-dessus d'une palissade de 3 mètres de haut, même si ses couilles n'étaient pas en train de lui faire passer des messages en code morse avec des élancements effroyables, même s'il ne les sentait pas en train de gonfler dans son caleçon. Tout à coup, sa tête bascule en avant. Et il vomit une grande gerbe chaude de nourriture à demi digérée en plein sur sa chemise et sur son pantalon. Il la sent pénétrer jusqu'à sa peau, aussi chaude que de la pisse. Deux jeunes couples, de toute évidence ensemble, marchent en sens inverse. Les hommes sont larges d'épaules. Ils pourraient éponger le trottoir avec la tête de Lenny et peut-être qu'ils en donneraient pour son argent à George en s'organisant correctement. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils veulent, c'est s'éloigner le plus vite possible du voisinage de Callahan. « Il a juste un peu trop bu !» dit George en souriant avec compassion. « Et puis, oups là, ça arrive aux meilleurs d'entre nous de temps en temps. » « Ce sont les frères Hitler !» essaie de hurler Callahan. « Ce sont les frères Hitler! Ils ont tué mon ami et maintenant ils vont me tuer moi! Appelez la police !» Mais, bien sûr, rien ne sort. Dans des cauchemars comme celui-là, rien ne sort jamais. Et bientôt, les couples s'éloignent. George et Lenny le traînent le long du trottoir de la 2e avenue entre la 46e et la 47e rue. Ses pieds touchent à peine le sol. Son hamburger fume sur sa chemise. La vache, il sent même l'odeur de la moutarde qu'il avait mise dessus. « Montre-moi sa main, » dit George, alors qu'ils approchent de l'intersection. Et quand Lenny attrape la main gauche de Callahan, George lui lance. « Pas celle-là, tête de nœud, l'autre !» Lenny tend la main droite de Callahan. Il ne peut pas l'en empêcher. Il a le bas-ventre rempli de ciment chaud et humide. Pendant ce temps, son estomac tremblote dans sa gorge, comme un petit animal effrayé. George jette un œil à la cicatrice sur la main de Callahan, et il hoche la tête. « Ah, c'est bon. C'est bien lui. Ça coûte rien de vérifier. Vas-y. Lâche-le, le paternel. Gauche, droite, hop, hop. » Quand ils arrivèrent à la hauteur de la 47e, Callahan se fait pousser dans la première rue venue. En bas à gauche, il aperçoit une flaque de lumière blanche et vive, le foyer. Il voit aussi quelques silhouettes voûtées des hommes qui se tiennent au coin en train de parler du programme et de fumer leurs cigarettes. « Peut-être même que j'en connais certains, » se dit-il confusément. « Bon Dieu, c'est sûr !» Mais ce n'est pas là qu'ils vont. À quelques mètres du bâtiment, George traîne Callahan sous l'auvent d'une boutique désertée avec un panneau « à vendre ou à louer » sur chacune des deux vitrines badigeonnées de peinture. Lenny gigote autour d'eux comme un chien de berger qui encercle deux vaches un peu lentes. « Je vais te dérouiller, nique de nègre scantil, dès comme toi, on s'en est tapé peut-être mille et on s'en fera encore un million avant d'en avoir fini. On peut se farcir tous les nègres qu'on veut, même les gros bonnets des nègres. C'est dans une chanson que je suis en train d'écrire. Cette chanson, elle s'appelle « Bute tous les pédés qui niquent les nègres ». Je vais l'envoyer à Merle Haggard quand elle sera finie, c'est le meilleur. C'est lui qui a dit à tous ces hippies de se foutre à genoux et de chier dans leurs bottes, ce putain de merde pour l'Amérique. Moi, j'ai un Mustang 380 et j'ai un Luger Hermann Göring. Tu sais ça, nigger de nègre ?»«
Ta gueule, petite tête, » lance George. Mais c'est dit sur un ton distraitement affectueux, car il consacre l'essentiel de son attention à trouver la clé qu'il veut sur son gros trousseau, puis à ouvrir la porte de la boutique vide. Et Callahan se dit, pour lui... Lenny, c'est comme la radio qu'on laisse allumer dans un garage ou dans les cuisines d'un fast-food. On l'entend même plus. Il fait juste partie du bruit de fond.
« Ouais, not !» dit Lenny, loin de vouloir s'arrêter. « Ce putain de Luger de ce putain de Göring, c'est ça ? Et je te ferai peut-être sauter les burnes avec, parce qu'on connaît la vérité sur les niqueurs de nègres comme toi. On sait ce qu'ils font dans ce pays. Pas vrai, not ?»
« Pas de nom !»« Te l'ai déjà dit !» lance George North, mais sans agressivité. Et Callahan sait pourquoi. Il n'aura jamais l'occasion de répéter le moindre nom à la police, en tout cas si les choses tournent comme le prévoient ces sacs à merde.
« Désolé, North, mais avec ces niqueux de nègres, ces putains de juifs, d'intello et tous ceux qui foutent le pays en l'air. Je veux que tu cogites bien là-dessus quand je te remonterai les burnes dans le scrotum. »
Les burnes et le scrotum, c'est la même chose, crétin, répond George North d'une voix étrangement professorale, et puis... Bingo! La porte s'ouvre. George North pousse Callahan à l'intérieur. La devanture n'est qu'une boîte vide qui sent l'eau de Javel, le savon et l'amidon. Des gros câbles et des tuyaux surgissent de deux des murs. Il voit des carrés plus clairs indiquant l'ancien emplacement des machines à laver à pièces et des séchoirs à linge. Au sol, un panneau à peine lisible luit dans l'obscurité. Laverie de la baie de la Tortue. C'est vous qui lavez, c'est nous qui lavons, mais en tout cas, ça ressort tout propre. D'accord, se dit Callahan. Il se retourne et n'est pas surpris de voir que George North le tient en joue avec une arme. Pas le Luger Hermann Göring, plutôt le genre de calibre 32 au rabais qu'on achète pour $60 dans un bar de la ville, mais il est sûr qu'il fera l'affaire. George North fait glisser la fermeture éclair de sa banane sans quitter Callahan des yeux. Ce n'est pas la première fois ni pour lui ni pour Callahan. Ce sont des vieux de la vieille, vieux loups. Et il en sort un rouleau de Chatterton. Callahan se rappelle que Loupé avait dit que l'Amérique s'effondrerait en une semaine si elle venait à manquer de Chatterton. L'arme secrète, il l'appelait. George North tend le rouleau à Lenny, qui s'en saisit, et se précipite vers Callahan avec cette même rapidité d'insecte.
« Mets les mains dans le dos, niqueur de nègre !»
lance Lenny. Callahan n'en fait rien. George North lui agite le pistolet sous le nez.
« Fais-le, ou je t'en mets une dans les tripes, fille paternelle. Crois-moi, t'auras jamais eu aussi mal de ta vie. »
Callahan s'exécute, il n'a pas le choix. Lenny fonce derrière lui.
« Serre les mains, niqueur de nègre, tu sais pas comment on fait ou quoi? T'es jamais allé au ciné ?»
Et il s'esclave comme un dingue. Callahan rapproche ses poignets l'un de l'autre. Alors que Lenny l'attache avec du ruban et lui remonte les bras dans le dos, Callahan émet un grognement sourd. Il est là, inspirant à longs traits les relents de poussière et d'eau de Javel et l'odeur quelque peu enfantine et rassurante d'adoucissant. « Qui vous a engagé ?» demande-t-il à George North.
« Les ignobles ?»
George North ne répond pas, mais Callahan croit le voir scier. Dehors, la circulation déboule par vagues. Quelques piétons passent devant la vitrine. Que se passerait-il s'il se mettait à hurler ? Eh bien, il connaît la réponse à cette question, non ? Il est dit dans la Bible que le prêtre et le lévite, passant devant l'homme blessé, n'entendirent pas ses cris, mais qu'un certain samaritain éprouva de la compassion pour lui. Ce dont Callahan a besoin, c'est d'un samaritain. Mais à New York, il ne court pas les rues.
Est-ce qu'ils avaient les yeux rouges, North ?
North scie de nouveau, mais il garde son arme pointée à hauteur du ventre de Callahan, parfaitement stable.
Est-ce qu'ils conduisaient des grandes voitures extravagantes ? Oui, hein ? Et combien tu crois que ta vie et celle de ce petit tas de merde vaudront une fois que...
Lenny lui attrape de nouveau les couilles, les lui écrase, les lui retourne, puis les tire vers le bas comme un store. Callahan pousse un hurlement et tout devient gris autour de lui. Il sent ses jambes ramollir et ses genoux lâcher.
« Et il est tombé !»
crie Lenny euphorique.
« Mohamed Ali est à terre ! Le grand espoir blanc a mis la pâtée à cette grande gueule de négro et l'a flanqué au tapis ! Incroyable !»
C'est une imitation d'Howard Cosell, tellement réussie que même en pleine torture, Callahan a envie de rire. Il entend un nouveau bruit de déchirure, et il comprend qu'on lui attache les chevilles. George North va chercher un sac à dos dans le coin de la pièce. Il l'ouvre et fouille dedans, puis en sort un appareil photo polaroïde. Il se penche au-dessus de Callahan et soudain, c'est un grand éblouissement. Dans les secondes qui suivent,
Callahan ne voit rien d'autre que des formes fantomatiques derrière une grosse boule bleue au milieu de son champ de vision. Cette boule a la voix de George North.
Fais-moi penser à en prendre une autre après.
Ils veulent les deux.
Ouais, North.
Ouais.
Le petit a l'air sur le point de mourir d'excitation. Et Callahan sait que les choses sérieuses vont commencer. Il se remémore cette vieille chanson de Dylan, « A hard rain's gonna fall » et se dit « Ça colle mieux que « Someone saved my life tonight » en tout cas. » Il est enveloppé par l'odeur de l'ail et des tomates. Quelqu'un a mangé italien sans doute pendant que Callahan se faisait gifler à l'hôpital. Une silhouette surgit du brouillard. Le costaud.
« Peu importe qui nous a engagés !» lance George North.
« Ce qui compte, c'est qu'on nous a engagés. Et pour ce qui nous concerne, c'est rien d'autre qu'un de ces niqueurs de nègres comme ce magrodeur. Et les frères Hitler vont te récurer la paillasse. On est dévoués, mais on refuse pas un petit salaire comme tout bon Américain. »
Il marque une pause, puis vient l'ultime absurdité existentielle.
On est populaire dans le Queens, tu sais. Va te faire foutre, lâche Callahan, et alors toute la moitié droite de son visage explose de douleur.
Lenny vient de lui donner un coup de botte à talons en fer, lui brisant la mâchoire. En quatre endroits, comme il le constatera.
Joli discours, entend-il vaguement Lenny dire dans cet univers insensé où, de toute évidence, Dieu est mort et est en train de se décomposer sur le sol puant et ravagé du paradis.
« Joli discours pour un paternel !»
Puis sa voix monte d'un cran et l'excitation lui donne des intonations enfantines.
« Laisse-moi faire, North ! Allez, quoi ? Laisse-moi faire, je veux le faire !»«
Pas question, répond George North. C'est moi qui fais les croix gammées sur le front. Toi, tu les foires toujours. » Toi, tu fais celle sur ses mains, ok ?
Il est attaché, il a les mains recouvertes par ce putain de...
Quand il sera mort, explique George North avec une redoutable patience, on lui détachera les mains quand il sera mort, et tu pourras...
Non, s'il te plaît ! Je fais ce truc que t'aimes bien, et écoute...
La voix de Lenny s'éclaire.
Je vais te dire... Si je commence à foirer, tu me dis et j'arrête. S'il te plaît, North ! « S'il te plaît !»
Bon. Callahan a déjà entendu ce ton-là, celui du père indulgent qui ne veut rien refuser à son enfant préféré, même demeuré. Bon, d'accord.
Son champ de vision se désembrume. Il le regrette amèrement. Il voit Lenny sortir une lampe de poche du sac. George a pris un scalpel pliant dans sa banane. Ils échangent leurs instruments. George essaie la lampe sur le visage de Callahan, qui enfle à vue d'œil. Callahan plisse les yeux en grimaçant. Il y voit juste encore assez pour distinguer Lenny qui ouvre le scalpel de ses doigts minuscules mais habiles.
« Ça va être l'éclate !»
glapit Lenny, fou d'excitation.
« Ça va être trop l'éclate !»«
Essaie de pas foirer !» lui dit George.
Callahan se dit, si c'était un film, c'est pile maintenant que débarquerait la cavalerie. Ou les flics. Ou ce putain de Sherlock Holmes dans la machine à remonter le temps d'H.G. Wells. Mais Lenny s'agenouille en face de lui. Et Callahan voit très distinctement la bosse dans son entrejambe. Et la cavalerie ne débarque pas. Il se penche en avant, son scalpel dénudé, et les flics ne débarquent pas. Callahan ne sent pas les relents d'ail et de tomates cette fois, mais la sueur et le tabac froid.
« Attends une seconde, Bill, » dit George North. « J'ai une idée. Je vais te faire un modèle d'abord, j'ai un stylo dans ma poche. »«
Oublie ça, putain !»
lâche Lenny, Bill, dans un souffle. Il déplie complètement le scalpel. Callahan voit la lame de rasoir trembler sous l'excitation du nabo, puis disparaître de son champ de vision. Quelque chose de froid lui zèbre le front, puis ça devient brûlant. Et pas de Sherlock Holmes en vue. Le sang lui dégouline dans les yeux, lui brouille la vision, et personne ne débarque. Ni James Bond, ni Perry Mason, ni Hercule Poirot, ni cette pute de Miss Marple. Le visage blanc en lame de couteau de Barlow apparaît dans sa mémoire. La chevelure du vampire flotte autour de sa tête. Barlow tend la main vers lui.
« Viens, faux prêtre, lui dit-il. Viens apprendre une vraie religion. »
Et il entend les deux craquements secs au moment où le vampire brise les bras du crucifix que lui avait donné sa mère. « Espèce de demeuré, grogne George North. C'est pas une croix gammée, c'est une croix tout court. Donne-moi ça !»«
Arrête, North, laisse-moi une chance, j'ai pas fini !»
Et il se chamaille au-dessus de sa tête, comme deux gamins, pendant que ses couilles lui font souffrir le martyre, que sa mâchoire cassée le lance et que son visage dégouline de sang. Tous ces débats des années 1970 pour savoir si Dieu est bien mort. Et le Christ, jeter un coup d'œil au Christ, comment on peut encore avoir des doutes? Et c'est alors que la cavalerie débarque. 9.
Que voulez-vous dire exactement? Demanda Roland. J'aimerais beaucoup entendre la suite, père.
Ils étaient toujours assis autour de la table sous la véranda, mais ils avaient fini leur repas, le soleil s'était couché, et Rosalita avait apporté des scintilles. Callahan lui avait proposé de s'asseoir avec eux, ce qu'elle avait fait. Derrière les paravents, dans la cour assombrie du presbytère, les insectes bourdonnaient, affamés de lumière. Grâce au Shining, Jake sentit ce que le pistolero avait en tête. Et soudain, exaspéré par toute cette atmosphère de secret, il posa la question lui-même.
C'était nous, la cavalerie, mon père ?
Roland eut un air choqué, puis clairement amusé. Callahan eut simplement l'air surpris.
Non, je ne crois pas.
Mais vous ne les avez pas vus, n'est-ce pas ? Demanda Roland. Vous n'avez jamais réellement vu ceux qui vous ont sauvés.
Comme je vous l'ai dit, les frères Hitler avaient une lampe de poche. C'est vrai, mais ces autres types, la cavalerie...
10. Qui qu'ils soient, ils ont carrément un projecteur. La lumière remplit la laverie abandonnée, un éclat bien plus fort que celui du flash du Polaroid au rabais. Et contrairement au Polaroid, cette lumière-là est continue. George, North et Lenny, Bill se protègent les yeux du bras. Callahan aimerait bien en faire autant, mais il a les bras collés dans le dos.
North ! Lâche-moi ce flingue ! Bill ! Balance le scalpel !
La voix qui provient de la lumière fait peur, parce qu'elle a peur. C'est la voix de quelqu'un qui sera probablement incapable de faire quoi que ce soit.
Je vais compter jusqu'à 5. Et après, je vous descends, tous les deux, parce que c'est ce que vous méritez.
Puis la voix derrière la lumière se met à compter, non pas lentement et solennellement, mais à toute vitesse. 1, 2, 3, 4. C'est comme si ce type voulait tirer et se dépêcher de se débarrasser des formalités. George, North et Lenny, Bill n'ont pas vraiment le temps de réfléchir. Ils balancent l'arme et le scalpel, et le coup part tout seul quand le pistolet heurte le lino poussiéreux, dans un grand bang, comme un jouet en plastique chargé de double balles explosives. Callahan est incapable de dire où la balle est allée. Peut-être même qu'il l'a prise quelque part. Est-ce qu'il s'en rendrait même compte si c'était le cas? Pas sûr.
« Ne tirez pas, ne tirez pas !» gémit Lenny, Bill. « On n'est pas !»«
Par quoi ?» Il n'a pas l'air d'en avoir la moindre idée. « Main en l'air !»
crie une voix différente, mais provenant elle aussi de derrière le projecteur aveuglant.
« Les bras vers le ciel, tout de suite, bande de mamzers !»
Il lève immédiatement les mains.
« Maintenant, virez-moi tout ça !» dit le premier.
Ce sont sans doute des types super, Callahan les mettrait bien volontiers dans son répertoire pour leur envoyer ses vœux, mais il est évident que c'est la première fois qu'ils font une chose pareille.
« Retirez vos chaussures et le pantalon, maintenant, tout de suite !»«
Mais putain, qu'est-ce que...
lâche George North.
Vous êtes qui, les gars? Des flics? Si vous êtes des flics, va falloir que vous nous lisiez nos droits, nos putains de...
Un coup de feu part de derrière le projecteur. Callahan voit un éclair de lumière orange. Il s'agit probablement d'un pistolet, mais il est au petit calibre 32 du dimanche des frères Hitler, ce qu'un faucon est à un colibri.
La détonation est énorme, suivie instantanément d'un bruit de plâtre fracassé et d'un nuage de poussière fétide.
George, North, Eleni, Bill poussent tous deux un hurlement. Callahan a l'impression que l'un de ses sauveurs, pas le tireur, l'autre, se met lui aussi à crier.
« Les chaussures et le pantalon, tout de suite! Vous avez intérêt à les avoir retirés avant que je compte jusqu'à 30, sinon vous êtes morts! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... »
Et de nouveau, il compte si vite qu'il ne laisse pas de place à la réflexion, encore moins aux protestations. George North décide de s'asseoir et la voix numéro 2 dit «
Asseyez-vous et on vous tue !»
Alors les frères Hitler se mettent à tituber autour du sac à dos, du polaroid, du pistolet et de la lampe de poche, comme des robots tout raides, retirant leurs chaussures, puis leurs pantalons. George est le genre boxer, alors que Lenny est plutôt slip, avec tache jaune en option. La trique de Lenny a disparu. La trique de Lenny a décidé de prendre sa soirée.
« Maintenant dehors !» dit la voix numéro 1.
George se tourne vers la lumière. Son sweatshirt des Yankees pend sur son caleçon qui lui arrive presque au genou. Il porte toujours sa banane autour de la taille. Il a les mollets musclés, mais il tremble. Et il fait une tête de 6 pieds de long, maintenant qu'il comprend ce qui se passe.
« Écoutez les gars, si on sort d'ici sans avoir terminé ce type, ils vont nous tuer. C'est pas des gentils. » « Si vous n'êtes pas sortis d'ici quand j'aurai compté jusqu'à 10, bande de cons, c'est moi qui vais vous tuer !» répond la voix numéro 1.
Ce à quoi la voix numéro 2 ajoute avec une sorte de mépris hystérique.
« Gay cocknefanium, espèce d'enculé de lâche! Restez ou allez vous faire descendre! Qu'est-ce qu'on s'en fout ?»
Plus tard, après avoir répété cette phrase, une douzaine de juifs à qui il ne dit rien et qui répondent par un hochement de tête ébahi, Callahan tombe sur un vieux gars à Topeka qui lui traduit « Gay cockniff en yom ». Ça veut dire « Va chier dans l'océan ». La voix numéro 1 se remet à les harceler.
« 1, 2, 3, 4 !»
George North et Lenny Bill échangent un regard indécis, digne d'un dessin animé, puis se ruent vers la porte en sous-vêtements. Le projecteur les suit. Ils sortent, ils ont disparu.
« Suis-les !»
dit la voix numéro 1 à son partenaire sur un ton bourru. « Au cas où ils auraient l'idée de revenir. »«
Ouais !» fait la voix numéro 2 avant de disparaître à son tour.
La lumière s'éteint.
« Mettez-vous sur le ventre !» dit la voix numéro 1.
Callahan essaie de lui dire qu'il ne croit pas pouvoir y arriver, qu'il a l'impression d'avoir les couilles grosses comme des théières, mais il ne sort de sa bouche qu'une bouillie informe à cause de sa mâchoire cassée. Il trouve un compromis et bascule sur le côté gauche aussi loin qu'il peut.
« Ne bougez pas, dit la voix numéro 1, je ne veux pas vous couper. »
Ce n'est pas la voix d'un type qui fait ce genre de choses tous les jours. Même dans son état, Callahan le voit clairement. Ce type respire par saccades avec des interruptions et des sursauts inquiétants. Callahan veut le remercier. C'est une chose de sauver un inconnu quand on est flic, pompier ou garde-côte, mais c'en est une autre quand on est juste un type comme les autres. Et c'est ce qu'est son sauveur, ce que sont ces deux sauveurs, même s'il ne sait pas comment ils ont pu être à ce point préparés. Comment connaissait-il les noms des frères Hitler et l'endroit où les surprendre? Sont-ils arrivés de la rue ou bien attendaient-ils dans la laverie désaffectée depuis le début? Encore une chose que Callahan ne sait pas, et il s'en fiche, parce que quelqu'un lui a sauvé la vie ce soir, et c'est tout ce qui compte.
George et Lenny le tenaient presque, pas vrai? Mais la cavalerie est arrivée à la dernière minute, exactement comme dans un film de John Wayne.
Ce que Callahan veut faire, c'est remercier ce type. Il veut se retrouver en sécurité dans une ambulance en route pour l'hôpital avant que ces monstres étripent la voix numéro 2 dehors ou que la voix numéro 1 se fasse une attaque cardiaque sous son nez. Il essaie de parler et c'est de nouveau de la bouillie qui sort de sa bouche.
du blabla de poivreau, comme disait Rowan. Là, ça ressemble à « mais ». Il sent qu'on libère ses mains, puis ses pieds. Le type ne se fait pas d'attaque. Callahan roule de nouveau sur le dos, et il voit une main blanche et grassouillette qui tient le scalpel. Au majeur, l'homme porte une chevalière. Elle est gravée d'un livre ouvert sous lequel sont inscrits les mots « Ex Libris ». Puis le projecteur se rallume et Callahan lève le bras pour se protéger les yeux.
« Bon Dieu, mec, pourquoi vous faites ça ?»
Sauf que ça donne... Mais la voix numéro 2 a l'air de comprendre.
« Ça me paraît pourtant évident, mon ami blessé, » dit-il. « Si nous devons nous rencontrer de nouveau, je voudrais que ce soit une première fois. Si nous nous croisons dans la rue, j'aimerais autant que vous ne me reconnaissiez pas, c'est plus sûr. »
Des bruits de pas raclant le sol. La lumière recule.
« Nous allons appeler une ambulance depuis la cabine de l'autre côté de la rue. »«
Non, ne faites pas ça, et s'ils reviennent ?»
Et dans sa terreur extrême, il articule cette phrase avec une clarté parfaite.
« On montera la garde !» dit la voix numéro 1.
Le type a le souffle moins court. Il reprend les rênes. Callahan est content pour lui.
« Je pense qu'il n'est pas impossible qu'il revienne. » Le grand type était vraiment très embêté de vous laisser vous en tirer, mais si les Chinois disent vrai, je suis maintenant responsable de votre vie. C'est une responsabilité que j'ai l'intention d'honorer. S'ils doivent refaire une apparition, je leur balancerai une balle et pas au-dessus de la tête.
La forme se tait. Il a l'air d'un costaud, lui aussi. Et il a du cran, ça c'est certain.
C'était les frères Hitler, mon ami. Vous savez de qui je parle ?
Oui, murmure Callahan. Et vous ne voulez pas me dire qui vous êtes ?
Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, dit M. Ex Libris.
Vous savez qui je suis ?
Une pause. Les pieds qui raclent de nouveau le parquet. M. Ex Libris se tient dans l'embrasure de la porte de la laverie.
Non. Un prêtre, peu importe.
Comment avez-vous su que j'étais là ?
Attendez l'ambulance, dit la voix numéro 1. N'essayez pas de vous déplacer par vous-même. Vous avez perdu beaucoup de sang et vous souffrez peut-être de lésions internes.
Et puis il disparaît. Callahan reste allongé sur le sol dans l'odeur d'eau de javel et de lessive et les effluves légers d'adoucissant.
« C'est vous qui l'avez, et c'est nous qui l'avons, » se dit-il. « Mais en tout cas, ça ressort tout propre. »
Il sent dans ses testicules enflés une douleur lancinante. Sa mâchoire est à peu près dans le même état. À mesure que la chair gonfle, il sent tout son visage rétrécir. Il reste étendu là, à attendre l'ambulance ou le retour des frères Hitler et la mort. La dame ou le tigre, le trésor de Diane ou le serpent mortel. Et au bout d'une attente interminable, un gyrophare balaie le sol poussiéreux de sa lumière rouge, et il sait que pour cette fois, c'est la dame. Pour cette fois, c'est le trésor. Pour cette fois, c'est la vie. 11.
Et voilà comment j'ai atterri dans la chambre 577 de ce même hôpital ce soir-là.
Susanna se tourna vers lui, les yeux écarquillés.
Vous êtes sérieux ?
On ne peut plus sérieux. Rowan Magruder est mort. Je me suis fait tabasser et m'ont refilé le même lit. Ils ont dû avoir juste le temps de le refaire, et jusqu'au moment où la dame est arrivée avec l'injection de morphine qui m'a assommé, je suis resté là à me demander si la sœur de Rowan n'allait pas revenir finir le travail des frères Hitler.
Mais qui est-il là pour vous surprendre ? Des carrefours étranges comme celui-ci, nos histoires respectives en regorgent. Vous n'avez jamais songé à la coïncidence entre le nom de Lacala et mon nom à moi, par exemple ?
Bien sûr que si, répondit Eddie. Que s'est-il passé ensuite ? Demanda Roland.
Callahan eut un grand sourire, et en le regardant, le pistolero se rendit compte que les deux parties de son visage n'étaient pas tout à fait alignées. Il avait eu la mâchoire cassée, aucun doute là-dessus.
C'est la question préférée du compteur, Roland. Mais je pense que l'essentiel à présent, c'est que j'accélère un peu mon récit, ou bien nous allons y passer la nuit. Le plus important, la partie que vous voulez vraiment entendre, c'est la fin.
Eh bien, on pourrait croire, songea Roland, et il n'aurait pas été surpris d'entendre que ses trois compagnons se faisaient à peu près la même réflexion.
Je suis resté une semaine à l'hôpital. Quand ils m'ont laissé sortir, ils m'ont envoyé en maison de santé dans le Queens. Le premier endroit qu'ils m'ont proposé était beaucoup plus près, à Manhattan, mais il était en relation avec le foyer. Il arrivait qu'on y envoie du monde. J'avais peur, si j'allais là-bas, de recevoir une autre visite des frères Hitler.
« Et alors ?» demanda Susanna.
« Non, le jour de ma visite à Rowan, dans la chambre 577 de l'hôpital Riverside, ce jour où j'y ai atterri moi-même, c'était le 19 mai 1981. Et c'est le 25 que je suis parti pour le Queens à l'arrière d'un camion, en compagnie de trois ou quatre autres estropiés. Je dirais que c'est environ 6 heures plus tard, juste avant de quitter la maison de santé et de reprendre la route, que j'ai vu l'article dans le Post. C'était en première page. Deux hommes trouvés morts par balle à Coney Island, disait le gros titre. Selon la police, il s'agirait d'une vengeance mafieuse. Parce qu'ils avaient eu le visage et les mains brûlées à l'acide. Malgré ça, les flics ont pu les identifier. Norton Randolph et William Garton, tous deux originaires de Brooklyn. Il y avait des photos d'identité judiciaire. Ils avaient tous les deux un casier chargé. C'était bien des Lascars. Et c'était bien mes Lascars, George et Lenny.
Bah, vous pensez que c'est les ignobles qui les ont eus, pas vrai ?
Demanda Jake.
Ah, la vengeance. C'est une vraie saloperie.
Est-ce que les journaux les ont identifiés comme les frères Hitler ? Demanda Eddie. Parce que, mon vieux, on se faisait encore peur avec ces gars-là quand moi je suis arrivé dans le circuit.
Il y a eu des suppositions dans ce sens-là, dans la presse à scandale, dit Callahan.
Mais je parierais qu'au fond d'eux, les journalistes qui avaient couvert les meurtres et les mutilations des frères Hitler savaient que c'était Randolph et Garton. Après leur disparition, il n'y a plus rien eu à part quelques pâles copies à contre-cœur. Mais personne dans la presse à scandale ne veut tuer le croque-mitaine parce que c'est lui, la poule aux œufs d'or.
Bon sang, fit Eddie. Vous avez vraiment roulé votre bosse.
Et encore, vous n'avez pas entendu le dernier acte. C'est du grand spectacle.
D'un moulinet de la main, Roland lui fit signe de poursuivre, mais sans y mettre trop d'urgence. Il s'était roulé une cigarette et affichait un air satisfait, comme ses trois compagnons lui en avaient rarement vu. Seul Otte, endormi au pied de Jake, avait l'air encore plus serein.
Quand j'ai quitté New York pour la deuxième fois, j'ai cherché ma passerelle. J'ai traversé le pont George Washington avec mon sac à dos et ma bouteille. Mais ma passerelle avait disparu. Dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai eu de temps à autre des aperçus des autoroutes occultées. Je me rappelle avoir vu passer un billet de $10 à l'effigie de Chadbourne. Mais c'était très rare. J'ai vu tout un tas de vampires de type 3, et je me rappelle m'être dit qu'ils se multipliaient à grande vitesse. Mais je n'ai rien tenté contre eux. C'était comme si j'avais perdu l'impulsion, tout comme Thomas Hardy avait perdu l'envie d'écrire des romans, ou Thomas Hart Benton celle de peindre des fresques. ce ne sont que quelques moustiques, je me disais, laissez partir. Ma seule préoccupation en débarquant dans une nouvelle ville, c'était de trouver l'agence Brownyman, Manpower, ou Job Guy la plus proche, et aussi de dénicher un bar où je me sente bien. Je préférais les endroits qui ressemblaient à l'Americano ou au Brownstone à New York.
« Vous aimiez bien un chouette cadre avec votre petit verre, en d'autres termes, » résuma Eddie.
« C'est exact, » répondit le père Callahan en regardant Eddie comme un alter ego. « Vrai. Et je protégeais ces endroits-là jusqu'au moment de partir, ce qui veut dire que je ressortais de mon bar de quartier favori, juste un peu pompette, et que j'allais finir la soirée, la partie braillarde avec vomi sur la chemise, ailleurs. » Al fresco, le plus souvent.
Qu'est-ce que... commença Jake. Ça veut dire qu'il allait se saouler dehors, Trésor, lui expliqua Suzanne. Elle lui ébouriffa les cheveux, puis fit la grimace et porta la main à son ventre. Vous allez bien, Sai? Demanda Rosalita.
Oui, mais si vous avez quelque chose à boire avec des bulles, j'en prendrai volontiers.
Rosalita se leva et donna en passant une petite tape sur l'épaule de Callahan. « Continuez, mon père, où il sera 2 heures du matin et les chats hurleront dans les Badlands que vous serez loin d'avoir fini. »«
Très bien. J'ai bu, pour résumer. J'ai bu tous les soirs et j'ai raconté ma vie à qui voulait l'entendre, l'histoire de Lupe et de Rowan et aussi de Rowena et du noir qui m'avait ramassé dans le comté d'Issaquen et de Ruta qui était peut-être très drôle mais qui était pas du tout une chatte siamoise. Et puis... mon délire terminé, je tombais dans les vapes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à Topeka, à la fin de l'hiver 1982. C'est là que j'ai touché le fond. Vous savez ce que ça veut dire, toucher le fond?
Il y eut un long silence, puis ils acquiescèrent. Jake repensait au cours d'anglais de Madame Avery et à sa composition de fin d'année. Susanna se rappelait Oxford, dans le Mississippi, et Eddie, cette plage au bord de la mer occidentale, quand il se penchait au-dessus de cet homme qui allait devenir leur Dean, projetant de lui trancher la gorge parce que Roland ne voulait pas le laisser partir par une de ses portes magiques pour aller choper un peu d'ash.
Pour moi, le fond, ça a été une cellule de prison, reprit Callahan. C'était tôt le matin, et en fait, j'étais quasiment sobre. C'était pas une cellule de dégrisement, mais une vraie cellule avec une couverture sur la paillasse et des toilettes où on pouvait s'asseoir. En comparaison de certains endroits où je m'étais retrouvé, on pouvait dire que là, je pétais dans le satin. Le seul inconvénient, c'était le gars de l'appel et cette chanson.